La semaine dernière, nous avions parlé de ranimer la flamme, comme Paul le suggère à Timothée. Et je vous avais aussi parlé d'un petit peu de rugby, le plus beau jeu au monde, et de la Coupe du monde de rugby qui aura lieu en France en 2023, en septembre 2023. Il y aura quelques matchs à Nice. Alors c'est la Coupe du monde, c'est un événement cosmique de rugby, mais on avait vu ensemble que entre le rugby et l'évangile, il n'y a pas photo quand même. Que l'évangile qui a vaincu la puissance de la mort, comme le dit Paul à Timothée au chapitre 1, verset 10, et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité, l'évangile est seul à pouvoir le dire, l'évangile de Jésus-Christ. Le rugby ne peut pas le dire. Et toutes les autres choses de ce monde ne peuvent pas le dire. Mais je voudrais continuer quand même à parler, non pas de l'évangile, mais de rugby. Il y a une manœuvre au rugby qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle, alors j'ai pas besoin de toucher, ça passe tout seul, le cadrage débordement. Alors le cadrage débordement, c'est quand un joueur qui a la balle, un attaquant, arrive à cadrer son adversaire, le défenseur, l'arrière, et à le déborder. Il fait une série de petites feintes, droite, gauche, et le défenseur ne sait pas où il va aller. Et donc, il est sur un appui droit, un appui gauche, et en général, il reste sur place, comme sur la photo, les bras un peu ballants, là. Parfois, il tombe même sur les fesses, quand c'est bien fait. Et l'attaquant peut déborder et aller marquer dans l'embut. Le cadrage débordement. Et si je vous parle du cadrage débordement, c'est pas pour vous faire, pour vous apprendre le rugby, ou pour même vous faire aimer le rugby, mais c'est parce que je pense que il y a dans le deuxième chapitre de cette lettre à Timothée un cadrage débordement que l'apôtre Paul veut suggérer ou veut dire à Timothée. Et c'est un cadrage débordement par rapport à un adversaire de taille, par rapport à un adversaire qui est très important, une sorte de Goliath. Et nous allons lire ensemble dans 2 Timothée 1, 2 Timothée 2, versets 1 à 13. Toi donc, mon enfant, il s'agit de Timothée, puisse tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ, et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé. Transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Mais on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ses paroles sont certaines, si nous mourons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons avec lui, si nous mourons avec lui nous revivrons, et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le régnons, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se régner lui-même. Alors, vous le constatez, il y a beaucoup dans ce passage, on aurait pu parler de la transmission de la foi, comme au début du passage, on aurait pu parler du reniement de la foi, comme à la fin du passage, mais au milieu du passage, il y a un verset qui nous prend comme un direct à l'estomac, il s'agit du verset 3, « Tel un bon soldat, prends avec moi ta part de souffrance. » Et pour ceux qui ont l'habitude des anciennes versions, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Souffre. Souffrir, souffrance, mince, flûte, saperlipopette, le mot est jeté. Il y a de la souffrance au programme. On ne m'avait pas prévenu. Peut-être que cela ne concerne que Timothée. Ah non, moi aussi. Si je veux du moins être un disciple qui sort de sa timidité, c'est pour tous ceux qui veulent vivre une vie pieusement en Jésus-Christ, la souffrance est au programme. Bon, d'accord. Mais on a du mal avec cette parole. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il s'agit d'un impératif en plus. Presque un ordre ou une invitation en tout cas. Souffre avec moi. Cela me fait penser à un slogan qu'on voyait beaucoup dans les années 70. Faites l'amour, pas la guerre. Et un petit rigolo avait écrit en dessous, et si j'ai pas envie? Et pareil peut-être pour souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, on a envie d'écrire en dessous, et si j'ai pas envie? Et c'est peut-être ce qu'on se dit maintenant par rapport à la souffrance. Mais attention, il faut tout de suite le dire, et Timothée le savait déjà, que Paul ne lance pas une invitation à rechercher la souffrance à tout prix. L'évangile est et reste une bonne nouvelle et non une invitation à se faire du mal. Quand Jésus le peut, il évite la souffrance dans son ministère. Il se retire à un moment quand la foule veut le lyncher. Paul aussi, quand il le peut, cherche à éviter les souffrances. Il s'enfuit d'une ville où on veut lui faire la peau. On peut même prier pour que des souffrances nous soient épargnées. Ce n'est pas un manque de foi que de le faire. Nulle part dans la Bible, on ne fait l'apologie de la souffrance, et en cela, la foi chrétienne se démarque de bien des spiritualités. Et donc, Paul ne lance pas un appel à rechercher la souffrance, mais plutôt à la supporter, comme il est dit au chapitre 4, verset 5, la supporter, et même plus que de la supporter, l'intégrer dans sa vie chrétienne, et je vous suggère un autre verbe, la recadrer, ou la cadrer, comme pour le cadrage débordement, pour mieux la déborder, recadrer sa souffrance. Et le premier recadrage, c'est celui de la normalité. Alors le titre est un peu maladroit, mais il souligne un aspect de la souffrance que nous pouvons facilement oublier, c'est que la souffrance est normale. Jésus lui-même l'a dit, il pleut sur les justes comme sur les méchants, en Matthieu 5, et le fait d'être chrétien ne change rien à la météo de ma vie. C'est évident, mais parfois en pratique, ça l'est moins. Notre fille Tamara, quand elle avait 12 ans, elle faisait de l'escalade à l'intérieur. Et vous savez, il y a des matelas pour pouvoir sauter au cas où on tombe et puis quand on saute. Et un jour, elle s'est fait une entorse à la cheville, à ce mur d'escalade, c'était à Bruxelles. Et elle a beaucoup pleuré de dépit. Et puis à un moment, elle a dit « Dieu m'a puni ». Et mon épouse et moi-même, on était sidérés de la théologie de notre fille de 12 ans. En tout cas, c'est pas nous qui lui avions appris cela. Dieu ne punit pas, il nous apprend des choses, parfois à la dure, mais il ne punit pas. Que se passait-il chez notre fille? Eh bien, tout simplement, ce qui se passe quand quelqu'un souffre, sa théologie ou sa foi se trouve déstabilisée. Quand la souffrance nous surprend, on vacille sur nos bases, justement parce qu'on est surpris par ce qui nous arrive, et c'est à ce moment-là, et nous l'avons fait pour notre fille, qu'il faut replacer la souffrance dans le cadre de la normalité. La souffrance fait partie de la vie quotidienne. Personne n'est à l'abri d'une entorse à la cheville, d'un licenciement, de la chute de son pouvoir d'achat, ou même d'une maladie grave. Il faut savoir recadrer sa souffrance dans le cadre de la normalité. Et puis pour les chrétiens, il y a un deuxième cadre dans cette normalité, dans le sens où pour les chrétiens, les souffrances seraient encore plus normales, on va dire. C'est ce que, me semble-t-il, Paul dit à Timothée, « Prends avec moi ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Comme un bon soldat de Jésus-Christ, ce que tu es. Parce qu'il est normal pour un soldat de souffrir pour donner pleine satisfaction à celui qui l'a enrôlé. Alors l'image du militaire à l'époque est très porteuse, un peu moins aujourd'hui depuis les films de la 7e compagnie, mais à l'époque il a un statut très particulier, le soldat. Il est lié à l'empereur par un serment qui s'appelle le sacramentum, mais il est surtout lié à son chef direct. Il y a des liens très personnels et un serment personnel de fidélité à son chef direct. Sa vie est liée à celle de son chef, il est entièrement à son service. Et Épictète, un auteur latin du 1er siècle, donc contemporain de Paul et Timothée, écrit en parlant du soldat « J'obéis, je marche à la suite de mon chef, je suis venu quand il lui a plu, je repars quand il lui plaît. » Et la relation soldat-chef est extrêmement forte, forte jusqu'à la mort. Alors quand le chef militaire se débrouille bien, il partage le butin avec ses soldats, mais si le combat mène à la mort, tous mourront avec lui. Alors Paul n'est pas un militariste convaincu, c'est juste une image, mais il l'utilise pour parler des souffrances que le soldat pouvait supporter à l'époque, et il l'applique à ce soldat un peu timide qu'est Timothée, le soldat de Jésus-Christ. Même chose avec la comparaison avec l'athlète qui ne peut pas remporter le prix s'il n'a pas respecté les règles. Alors on peut penser les règles du jeu, mais ce serait plutôt les règles de l'entraînement. À l'époque, toujours pour les Jeux Olympiques, les compétiteurs devaient prêter serment devant la statue de Jupiter, prêter serment qu'ils s'étaient entraînés pendant au moins 10 mois avant les Jeux. Je prête serment que je me suis entraîné pendant 10 mois. C'était la règle. Et tu pouvais pas être vainqueur si tu n'avais pas observé ces règles-là. Et toute la souffrance qui va avec. Je cite encore Épictète parce que c'est délicieux. Voilà ce qu'il dit, 1er siècle. Tu veux vaincre aux Jeux Olympiques? Eh bien, mets-toi à l'œuvre. Tu dois accepter une discipline, te soumettre à un régime, t'abstenir de friandises, 1er siècle, faire de l'exercice par nécessité à heure fixe ou la chaleur ou le froid. En un mot, te livrer à l'entraîneur comme au médecin. Puis dans le combat, tu devras ramasser de la poussière, parfois te démettre la main, te fouler le pied, avaler beaucoup de sable, recevoir le fouet. Et avec tout cela, il pourra t'arriver parfois d'être vaincu. Après cet examen, et si tu le veux, encore, fais-toi athlète. Voilà un peu le programme de l'athlète décrit par Épictète et par comparaison, celui du disciple de Jésus-Christ. Avec des règles d'entraînement difficiles, avec de la souffrance liée à l'entraînement, la vie de disciple n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut le savoir. Et puis, dernière image, celle du laboureur qui peine derrière sa charrue. Même si Paul parle aussi du fruit qui attend le laboureur, il parle du côté pénible aussi du travail du laboureur, du labeur du laboureur. Alors, ces trois images très connues et reconnues à l'époque, Paul veut souligner le caractère normal des souffrances pour un soldat de Jésus-Christ, pour un athlète dans la course pour Dieu et un laboureur dans le champ de Dieu. Des souffrances pour un chrétien qui s'engage dans le service de Dieu et qui s'ajoute donc à celle que tout le monde vit, à celle de l'autre normalité. Moi, j'ai entendu parfois des jeunes chrétiens me dire « Depuis que je suis chrétien, je n'ai que des tuiles. » Et je réponds rien parce que ce n'est pas le moment peut-être de lui dire, mais j'ai envie de lui dire « C'est tout à fait normal. » Et c'est peut-être plutôt bon signe même. Il y a quelque chose de changé dans ta vie. Et Pierre le dit très bien aux chrétiens dans la dispersion de l'Empire romain, « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. Ne soyez pas surpris parce que les chrétiens de l'époque et les chrétiens d'aujourd'hui pourraient être surpris par les souffrances qui arrivent sur eux. Et leur foi... Notre foi vacille. La foi chrétienne est-elle si pertinente? À quoi ça sert-il? À quoi cela sert-il d'être chrétien si je souffre encore? Si j'avais su, j'aurais pas venu. Une question qui nous traverse l'esprit, n'est-ce pas? Une question à laquelle Dieu répond tout en douceur. C'est normal, la souffrance. Tu es mon soldat. Tu es mon athlète. Tu es mon laboureur. Premier recadrage par rapport à la souffrance. Le deuxième est tout aussi obscur dans son énoncé. Il s'agit de replacer la souffrance dans le cadre de sa finalité. Alors le mot finalité est un peu vague, mais il y a le mot fin, qui n'indique pas simplement le résultat final, mais aussi la direction. Pour quelle fin? La direction. Et et que l'on veut donner à quelque chose, et en l'occurrence la souffrance. Là, quelle direction, quelle finalité donner à sa souffrance? Et on le voit dans les prépositions utilisées par l'apôtre Paul, au chapitre 1, verset 8, il parlait déjà de souffrance pour l'Évangile, et au chapitre 2, au verset 10, « Je supporte toutes les souffrances à cause des élus. » Donc il y a une sorte de finalité, et on voit que Paul donne une direction à ces souffrances, elles sont en quelque sorte cadrées dans une finalité, plus précisément dans deux. Je les cite, j'essaye rapidement. La première se retrouve dans une autre épître de Paul, celle aux Philippiens, où Paul est en prison, c'est sa première captivité en prison, sa première captivité à Rome, alors qu'il écrit 2 Timothée, il est dans sa deuxième captivité à Rome, mais dans sa première captivité, il écrit que sa souffrance, son emprisonnement, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, a été plutôt une bonne chose. Quand on regarde le résultat, la finalité qu'elle a pu avoir auprès des autres, ça a été plutôt une bonne chose. Les autres chrétiens, en effet, ont pris de l'assurance, en voyant Paul supporter la souffrance. Il y aurait comme une libération de puissance quand un chrétien supporte la souffrance et continue dans la foi. « Je suis lié comme un malfaiteur », dit Paul au verset 9. Et le mot « malfaiteur », c'est comme ceux qui sont sur la croix, comme les malfaiteurs sur la croix. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Au contraire, elle est déliée. Parce qu'il souffre, il y a comme une libération de quelque chose. Il y a comme un témoignage qui est rendu à la surface du monde. Paul avait cette capacité de pouvoir recadrer sa souffrance dans cette finalité-là. Elle sert à quelque chose. Et il faut bien l'avouer que nous ne l'avons pas toujours, cette conscience de la finalité. Et je ne l'ai pas. Et parfois je me demande pourquoi je souffre comme ça. Et quand on est en plein dans le rouleau compresseur de la vague qui nous submerge, on ne voit pas en quoi cette souffrance peut nous servir, ni à soi, ni aux autres. Mais je crois qu'il faut pouvoir faire, à ce moment-là, le saut de la foi. Un acte de foi qui, sans rien voir de précis, peut dire « Je souffre à toute fin utile », selon l'expression bien connue. Je souffre à toute fin utile. Je souffre et je veux replacer mes souffrances dans le cadre d'une finalité que Dieu connaît, que Dieu seul connaît même, parfois, et dirige. À toute fin utile que Dieu aura jugé bonne pour moi et pour les autres. Mais je veux en tout cas, moi, dans cet acte de foi, recadrer ma souffrance dans cette perspective-là, dans cette finalité, à toute fin utile pour le Seigneur. Et puis, il y a une deuxième finalité aux souffrances de Paul et de Timothée et du chrétien lambda que nous sommes tous, une deuxième direction à donner à toutes les peines que nous souffrons, et cette direction, c'est une personne, c'est Jésus. Cette finalité aux directions se trouve au verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et les commentateurs de la Bible nous disent que dans toute l'épître, la deuxième lettre de Paul à Timothée, c'est marqué « Christ Jésus », dans cet ordre-là, « Christ Jésus ». Mais simplement dans ce passage, c'est marqué « Jésus Christ » pour mettre l'accent sur son humanité et sur sa souffrance dans son humanité, parce qu'il a souffert. Et quand on parle des souffrances de Jésus, on pense souvent aux souffrances physiques de Jésus, la couronne d'épines, le fouet, l'agonie sur la croix par asphyxie lente. Mais dans son livre sur la souffrance de George Winston, il rappelle aussi la densité de la souffrance morale de Jésus, qui est puni alors qu'il est innocent, qui est rejeté alors qu'il annonce une bonne nouvelle. La souffrance morale extrême de se sentir abandonné par le Père alors qu'il porte le péché du monde. Une souffrance morale qui vient s'ajouter à la souffrance physique, un mélange de souffrances, des souffrances complètes. Et là, nous pouvons rejoindre Jésus, la diriger vers lui pour vivre ce que Paul appelle aussi aux Philippiens la communion aux souffrances de Jésus. Quand on souffre, il y a quelque part une communion
avec Jésus-Christ. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance à tout prix pour être dans la communion avec Jésus-Christ, mais de pouvoir la replacer dans ce cadre-là. Alors, je ne sais pas exactement comment faire, certainement par la prière, la méditation de sa parole, de recevoir sa parole vraiment dans le tréfonds de notre cœur, mais intégrer cette vérité-là lorsque l'on souffre. On est avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, sœur Teresa, je ne l'appelle pas mère Teresa, mais sœur Teresa, est décédée il y a 25 ans, à Calcutta. Et il y avait dans le Time de septembre 2007, donc 10 ans après sa mort, tout un article qui parlait de sœur Teresa. On a découvert toute sa correspondance, 10 ans après sa mort, justement. Et ces lettres montrent que sœur Teresa vivait une souffrance, qu'elle appelait le silence de Dieu, et qu'elle appelait aussi ses ténèbres. Sœur Teresa, pendant 50 ans de service de Dieu pour les mourants de Calcutta, a eu l'impression que Dieu se taisait, et c'était une grande souffrance pour elle. Alors elle en a parlé autour d'elle, mais elle obtenait peu de réponses, jusqu'au jour où elle a rencontré un théologien du nom de Joseph Neuner, qui lui a dit d'abord que le fait qu'elle n'entendait pas Dieu ne voulait pas dire qu'il n'était pas présent. Mais il lui a dit aussi que peut-être qu'elle vivait cette communion avec Jésus et avec ce que Jésus avait vécu sur la croix, en l'occurrence les paroles qu'il a dites sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cette pensée, la pensée de savoir que sa souffrance était semblable à celle de Jésus, a vraiment encouragé et soulagé sœur Teresa. Elle était en communion avec lui dans sa souffrance et ça lui a permis de donner sens à ses ténèbres, à sa souffrance. Et dans une lettre à Neuner, elle dit « Je ne peux exprimer par des mots la gratitude que j'ai envers vous. Pour la première fois en tant d'années, je parviens à aimer mes ténèbres, car je crois maintenant qu'elles sont une partie, une toute petite partie des ténèbres et de la souffrance de Jésus sur la terre. » Sœur Teresa a pu recadrer sa souffrance, même la plus troublante, le silence de Dieu, dans le cadre de la personne même de Jésus, de la communion de ses souffrances. Et je pense qu'il ne faut pas être une sainte ou un saint pour faire la même chose que sœur Teresa. Le dernier cadre. Le cadre de la communauté. Replacer, recadrer sa souffrance dans le cadre de la communauté de ceux qui souffrent, pas des souffreteux ou des plaintifs, mais des hommes et des femmes qui souffrent et qui supportent la souffrance. Et on le voit dans le texte, l'expression « avec moi », « souffre avec moi », c'est un terme clé. Et en grec, le « souffre avec moi » ne fait qu'un seul mot, littéralement « souffrir des mauvais traitements avec ». En un seul mot en grec. « Souffrir des mauvais traitements avec, et le tout est dans l'avec, souffrir ensemble de la morsure du mal. On ne souffre pas tout seul, d'autres souffrent avec moi. » Et ce rappel est salutaire parce que quand on souffre, on a tendance à nous replier sur nous-mêmes, à nous isoler par rapport à la communauté. Quand on souffre, on ne sort plus, on ne voit pas que sa souffrance qui nous bouche tout l'horizon, et Dieu dans sa parole nous invite à recadrer notre souffrance et la placer dans la communauté de ceux qui souffrent avec. Et cette pensée nous permet de résister à l'adversaire qui veut nous anéantir dans la souffrance. Et Pierre le dit en parlant de cet adversaire, Satan, résistez-lui, ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Peut-être pas la même intensité, peut-être de manière différente, mais le savoir, sachant, le fait de savoir que les mêmes souffrances sont vécues par d'autres permet de mieux résister à la morsure du mal. À la mort de mon père en 96, j'ai souffert. Comme il avait 65 ans, j'en avais 34, et comme le reste de ma famille, et j'avais le sentiment d'un grand vide. Et j'ai parlé lors des funérailles d'une grande tempête sur la famille Van der Does. Alors j'ai reçu beaucoup de lettres et beaucoup de petits mots d'encouragement, mais il y en a une qui m'a particulièrement aidée. Elle était écrite par un homme chrétien qui avait perdu son père quelques années avant. Et il m'en parlait dans sa lettre de son père. Il parlait de ses larmes, de sa détresse, de ses regrets aussi. Et cette lettre m'a ouvert et m'a permis de reprendre courage. Il ne disait pas « Eric, moi aussi j'ai perdu mon père, alors arrête de pleurer », mais il me disait simplement « Aujourd'hui, en repensant à la mort de mon père, je souffre avec toi ». Ça, c'était sa phrase. Et ça m'a fait un bien fou de savoir que quelqu'un comprenait ma souffrance. Souffrir avec, souffrir en communauté, c'est bienfaisant et ça nous permet de recadrer notre souffrance. Trois recadrages nécessaires. Le recadrage de la normalité, celui de la finalité et enfin de la communauté. Je termine en reparlant du cadrage débordement. Le cadrage, on peut le faire. Le débordement complet de la souffrance, il faudra attendre peut-être le retour de Christ, la résurrection finale. Comme l'a lu tout à l'heure Sylvie, là il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni souffrance. Mais on est en train quand même ensemble de déborder, de dépasser nos souffrances en entendant d'aller aplatir le ballon dans l'embuté. Je nous invite à nous encourager les uns les autres, à bien recadrer nos souffrances et nos difficultés pour pouvoir commencer à les déborder ou tout du moins à les supporter. Par la grâce de Dieu. Amen.